les médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio-Télévision Suisse,
Radio-Canada.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la librairie francophone. Aujourd'hui, nous irons dans un immeuble rencontrer des personnages ubuesques. Vous découvrirez une BD sublime avec deux grandes personnalités belges. Et nous irons à Mirabel, au Québec, à la rencontre d'un célèbre médecin. Voici le sommaire de cette édition.
La librairie francophone, Emmanuel Queyrade.
Le dramaturge Jean-Michel Ribes est avec nous pour sa nouvelle pièce de théâtre, une galerie de personnages provocateurs dans un immeuble. Des textes savoureux à contre-courant du politiquement correct. C'est sans doute la BD de cette fin d'année. Le scénariste Zidrou, co-créateur de L'élève du Cobu et de Tamara, propose un album pour adultes à l'opposé de son travail pour Spirou. Des petits contes sur l'amour, magnifiquement illustrés par David Merveille. Un choc culturel et un grand coup de cœur de notre rédaction. Nous irons à Mirabel, au Québec, à la rencontre du docteur François Marquis. Il a publié ce qu'il appelle ses carnets de pandémie, un médecin engagé qui a une passion étonnante que vous découvrirez tout à l'heure. Et puis une séquence livre de poche avec Mohamed Bougarsar. Le prix Goncourt 2021 vous parlera de son précédent roman sur le thème de l'homosexualité au Sénégal. Et les libraires sont avec nous comme chaque semaine. Ils interviendront bien sûr tout au long de l'émission. Bonjour Josiane Letourneau.
Bonjour Emmanuel.
Vous représentez le Canada, vous êtes libraire à Montréal dans la librairie du Square. Tout va bien ?
Tout va bien, merci beaucoup.
Parfait. Et vous ? Ça va, écoutez, tout va bien aussi. Pour la France, on retrouve Thomas Auxerre de la librairie Lamandier à Puteaux, du côté de la Défense, juste à côté de Paris. Bonjour Thomas.
Bonjour Emmanuel.
Comment allez-vous ?
Bah ça va plutôt bien.
Ça va. C'est ça, c'est notre blague récurrente. À Puteaux, ça va plutôt bien.
Exactement.
Ça fait rire Jean-Michel Ribes. Bonjour Claire Renaud.
Bonjour Emmanuel.
On a cherché avec vous à Genève, mais ça marche pas. Vous êtes libraire en Suisse, dans la librairie Atmosphère, à Genève, donc toute proche de l'université. Hein.
Exactement.
Parfait. Enfin, pour la Belgique, on retrouve Nathalie Clairin de la librairie de la Mazrine à la Hulpe. Bonjour Nathalie.
Bonjour Emmanuel.
Comment allez-vous Nathalie ?
Ça va bien, ça va bien.
Vous êtes en forme et vous allez nous raconter une anecdote personnelle de libraire pour démarrer.
Oui, un petit quelque chose. Alors vous savez Emmanuel, en librairie, eh bien parfois on se retrouve face à des clients qui vous soutiennent mordicus quelque chose alors qu'ils sont tout à fait imprécis ou bien carrément à côté de la plaque, ça arrive aussi. Mmh. Et dernièrement, eh bien on a eu une dame, elle cherchait pour sa fille aux études un livre et elle disait que c'était sur une certaine Marie-Paul Claudel.
Ouais.
Et il était question d'une annonce. Bon, à ce moment-là, c'est le cas de le dire, un ange passe. Et puis, on se souvient, ah oui madame, il existe l'annonce faite à Marie, et c'est de Paul Claudel.
Eh oui.
Mais c'est vrai qu'on n'en parle plus trop de Paul Claudel. Alors là, madame, oui, elle comprend, elle avait mal lu son petit papier. Voilà, c'était tout simple, mais c'est pour vous dire qu'on, dans tous les cas, on essaye d'avoir une rectification avec un petit peu de tact et de diplomatie. Voilà. Et parfois, on se marre bien sur le côté.
Vous réajustez, c'est ça, les choses.
Voilà.
Eh oui, puis on se fait conseiller par les libraires.
Évidemment, c'est, là, voilà. C'est pour ça
c'est
qu'on
votre
est là.
Boulot. Merci Nathalie pour cette histoire, à tout à l'heure.
Des bougies meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te.
Sur cette musique d'Adriano Celentano que vous citez dans votre bande dessinée. Bonjour Zidrou.
Bonjour.
24 mila, c'est le titre de cette chanson italienne assez ancienne. Vous avez reçu fin octobre le Grand Prix de l'Académie Victor Russell pour l'ensemble de votre œuvre. Le grand public vous connaît pour L'élève du Cobu et Tamara, série phare du journal de Spirou. Des BD principalement pour les enfants, Zidrou, on peut dire ça ?
Enfants, adultes, oui, mais moi, rien ne m'arrête. Les vieux, je prends tout, moi. Tous les lecteurs possibles, je les prends. Les vieux ringards qui lisent Ricochet, les anciens génies qui lisent Léonard, moi, je prends tout ce qui passe.
Oui, Léonard, vous avez repris aussi le scénario de Léonard. Hein.
Oui, je vous dis, je prends tout.
Alors là, vous publiez justement tout autre chose, un recueil de contes qui se déroule en Italie sur l'amour, et vous avez réussi à nous captiver avec des historiettes parfois un peu à l'eau de rose, hein, il faut bien l'avouer, mais c'est tellement bien écrit, tellement bien mis en scène, tellement bien dessiné que c'est une perle, ce livre-là. Elles viennent d'où, ces histoires, Zidro ?
Elles viennent d'abord de mon envie de faire plaisir à mon ami David Merveille. Ouais. Et qui nous rêvions de faire une bande dessinée depuis 30 ans. Il faut faire preuve d'abnégation dans ce métier. L'une ou l'autre histoire avait déjà été amorcée, voire écrite il y a quelques années. Évidemment, m'avait été refusée par tout le monde. Et puis, il y a eu une conjoncture de fait quand David a lu certaines de mes histoires et puis il m'a dit « Mais si on situait tout en Italie, et puis j'aime bien l'Italie des années 50 », ça a été le déclic et ça m'a lancé. Je dois dire que j'ai pris énormément de plaisir à travailler à ce livre, à l'écrire, à suivre son évolution, le travail, l'évolution de David Merveille. Et bon, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais c'est vrai que c'est un ouvrage dont je suis très fier.
Alors, vous êtes à distance avec nous depuis l'Andalousie, du côté de Malaga. David Merveille est à Bruxelles, on va le retrouver tout à l'heure. Je vais essayer de mettre les auditeurs dans le contexte, Zidrou. Il y a ce couple amoureux et la femme qui trompe son compagnon, juste une nuit. Ils sont dévastés tous les deux, alors elle lui propose de faire l'amour avec une autre. Comme ça, ils seront quittes.
C'est justement une histoire que j'écris déjà, ce qui s'appelait « Il-Elle ». Que j'ai écrite il y a un petit temps et dont personne ne voulait, les gens ne comprenaient pas, je sais pas, il a fallu que ce soit mis en image. C'est toujours un peu le problème des scénaristes qui dessinent comme des pieds, c'est que ils ont besoin de la main de quelqu'un pour arriver à leur fin. Et moi j'ai dans ce cas-ci celle de David et une fois que ça a été mis en image, c'est comme si c'était une évidence. Et je suppose que c'est la même chose pour les gens qui écrivent des pièces de théâtre ou des chansons. Il faut qu'il y ait un autre artiste qui passe dessus pour qu'enfin nos intentions puisse passer.
Oui, c'est vrai. Alors, vous écrivez ces phrases. Chaque phrase est illustrée par un dessin avec deux ou trois couleurs seulement. On va y revenir. Voici ce que vous écrivez, Zidro. Alors, il cherche cet homme-là. Il voit une femme endormie dans une barque, une autre qui promène son ombre dans un parc. Il part plus loin, il cherche plus fort. Il voit une femme qui se lave les cheveux dans l'eau d'une fontaine, une autre qu'on paie pour l'amour. Pendant des années, il cherche. À s'en arracher les cheveux, il cherche. À s'en abîmer les yeux, il cherche. Le temps qu'il faut pour donner tout son sens au verbe revenir, il cherche. En vain, pour rien. Alors, il revient. C'est joli, hein ?
Ben, écoutez, c'est qui écrit ça ?
C'est vous.
Parfois, on est dans le bon. Parfois, on est au filet, et comme un imbécile, on met la balle dans le filet. Et puis, il y a des fois, on réussit une belle volée. C'est un métier comme ça. Il faut tous les jours sur le métier, tu remettras tête à petit papa. Voilà.
Amore, c'est le titre de cet ouvrage. C'est un ouvrage qui va explorer ces parcelles de vie, des vies parfois meurtries, des secrets aussi. En amour, il y a souvent des secrets, Zidro ?
J'espère bien, sinon ça n'aura aucun intérêt.
Ah oui, vous croyez ?
Donc, ouais, ça, ouais, je crois.
Ça gâche pas tout.
Vécu, et directement ou indirectement. Donc, je pense que il y a beaucoup de blessures, beaucoup de fêlures, beaucoup de blessures qui parfois cicatrisent, parfois pas, qui restent. On porte tous nos histoires d'amour, qu'elles aient abouti ou non. D'ailleurs, parfois c'est un échange de regards, c'est une parole qu'on n'a pas osé adresser dans un train, c'est un moment passé sur un banc avec une jeune amoureuse quand on est adolescent. Enfin, on est en fait la somme de tous nos amours. Abouti ou pas, réussi ou pas. Ça inclut aussi la partie charnelle et sexuelle, mais pas seulement.
On part aussi à Venise, hein, puisque tout se passe en Italie, à un moment avec un gondolier qui dit « Gondolier, quand votre femme vous a quitté, c'est le pire métier du monde. »
Oui, c'est vrai. C'est horrible. Toujours des amoureux, toujours devoir balader des amoureux qui se bécotent, des vieux amoureux, des jeunes amoureux.
C'est ça, des voyages de noces.
Des adultères aussi, des amants adultères. Et vous êtes là à leur fredonner des chansons italiennes, toujours les mêmes en plus.
Oui, alors lui,
celui-là,
du coup,
non, hein, celui-là, il
alors, celui-là non. Celui-là non, il aime une musique qui ne correspond pas du tout à son image. Well, I'm gonna write a little letter, I'm gonna mail it to my local DJ. Yeah, this is a jumping little record I want my jockey to play. Roll over Beethoven, I gotta hear it again today. Voilà la chanson qu'il chante sur sa gondole avec ses passagères. Il raconte qu'il préfère ce genre de musique. Il est complètement décalé à ce gondolier de Venise.
Oui. Et c'est une histoire où il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de silence.
Ouais.
C'est quelque chose que j'apprends en progressant, je l'espère, du moins dans ce métier, c'est à gérer mieux les silences, les images d'introspection ou de projection du lecteur. C'est très intéressant d'apprendre petit à petit la force d'une image muette.
Alors on va voir si la force de votre image, la force de votre récit ont séduit les libraires. On va du côté de la Belgique tout d'abord. Qu'avez-vous pensé de ce livre, Nathalie Clairin ?
Eh bien Emmanuel, moi, que des éloges de ma part, et les raisons les voici. C'est parce que c'est sobre et fin, parce que c'est tellement poétique, parce que tout le monde, je crois, se reconnaît au moins dans une histoire, parce que le travail sur l'ombre et le soleil d'Italie est tout à fait remarquable, parce que le côté vintage est amusant, parce que c'est drôlement stylé, et peut-être parce que le nom de Merveille était prédestiné.
Donc voilà, on va pour l'entendre, tout ça. David Merveille, bravo. Depuis Bruxelles. Bravo Zidrou, la France avec Thomas Hausser.
Alors bah oui, moi aussi, hein, j'ai été séduit et c'est un coup de cœur pour cette BD. Alors moi, ça m'a emballé. Hein. C'est déjà le découpage original et puis aussi il y a les ambiances graphiques que j'ai trouvé assez étonnantes. J'ai bien apprécié le côté italien, un petit peu Dolce Vita, c'est solaire et lumineux. Et puis vos dessins, d'un coup, il y a une alternance, des histoires aux tonalités un petit peu plus sombres, voire inquiétantes. Moi, je trouve que l'ensemble fonctionne super bien.
Bon, on va entendre la Suisse dans un instant, mais avant, on va accueillir David Merveille quand même, qui nous écoute depuis Bruxelles. Bonjour David.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Ben, je vais fort bien, et puis ça fait plaisir d'entendre tous ces compliments.
Alors comme disait Nathalie, hein, sans vouloir jouer bêtement avec votre nom, franchement cette BD est une petite merveille. Vos dessins font souvent penser aux vieilles affiches de la Riviera, cette région côtière qui va de la Côte d'Azur en France jusqu'à la Ligurie en Italie. Vous en êtes inspiré de ces vieilles affiches ?
Ah oui, je me suis inspiré des vieilles affiches, mais surtout des vieux films italiens. Ça, c'était ma source de documentation première, c'était aller revoir et puis découvrir des films des années 50-60. Ça, c'était vraiment ma première source d'inspiration.
Mmh. Alors, cette économie de couleurs aussi, ces aplats qui évoquent peut-être aussi des peintres publicitaires, ce qu'on voyait dans les années 30, dans les années 40.
Oui, oui, tout à fait. Cette économie de couleurs fait penser à la sérigraphie, technique d'impression que j'utilise régulièrement, mais en fait, il faut vous dire qu'au début, quand j'ai commencé à dessiner les premières planches, elles étaient en noir et blanc, parce que je voulais vraiment faire référence directement à la Dolce Vita, à ce film de Fellini. Et puis, bon, c'était quand même un petit peu dommage de se passer des couleurs de l'Italie. Donc, je me suis dit, je veux quand même avoir des couleurs qui fassent référence, enfin, qui soient nostalgiques. Et donc, voilà, j'ai réduit la gamme, ce qui paraît plus simple, mais plus compliqué à faire.
Évidemment,
quand vous n'avez pas de bleu pour faire le ciel, ben vous prenez du vert. Donc,
ouais. Oui, et puis il y a toute une histoire de contraste, d'équilibre aussi, de vos cases et des planches. La Suisse avec Claire Renaud, qui a adoré ce livre, je crois, Claire.
Oui, moi aussi, comme mes collègues libraires, en cette période anxiogène, ces instantanés remplis d'amour et d'éphémères aussi, font du bien à l'âme. Et moi, j'ai trouvé aussi donc, que les dessins sont très cinématographiques. J'ai pensé entre autres à Antonioni, avec ses jeux de lumière. Enfin bref, on se sent en Italie, on a envie d'y aller, et rien que pour ce voyage, je vous remercie.
Voilà, vous faites l'unanimité, Zidrou et David Merveille.
Merci, merci, c'est très touchant.
Un livre absolument incroyable, parce que ce que vous faites, David, c'est que vous avez la réputation dans le métier, en fait, de pouvoir interpréter des émotions sans avoir de texte. Et c'est ce qui se passe là encore, parce que vous soulignez les phrases de Zidrou comme si vous faisiez un tableau. Et c'est plus qu'une bande dessinée, en fait. Ce sont comme des tableaux illustrés par des phrases.
Que dire d'autre ? Mais c'est vrai que moi, j'ai fait beaucoup de livres, en fait, sans texte. Puis il faut savoir aussi que quand il me remet un scénario, en général, il y a aussi une description qui va avec, parce qu'il en... Évidemment, il a des idées derrière la tête.
Hein. Oui, des envies de dessin, par exemple. Bon, en tout cas, c'est très réussi. Voilà, on voulait vraiment mettre un coup de projecteur sur votre album. Je ne sais pas si on peut dire bande dessinée, mais en tout cas, album dessiné avec ses textes très fins, très subtils. Merci beaucoup, Zidrou. Merci, David Merveille.
Merci à vous. Au revoir. Merci.
Et bon week-end donc en Andalousie et à Bruxelles, avec cette différence sans doute de temps et de température. À très bientôt. À mort est paru aux éditions Delcourt. C'est la BD à lire et à offrir pour Noël. C'est vraiment magnifique. Et en plus, le prix du livre est raisonnable. À suivre du théâtre avec là aussi un livre génial signé Jean-Michel Ribe. Avant cela, voici la grande Checarimiti dans la librairie francophone.
Vibre.
c'était l'artiste algérienne Chekari Miti avec Nta Goudami, titre de 2005, enregistré peu avant sa mort.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio Canada.
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et bonjour Jean-Michel Ribes.
Bonjour.
Comment allez-vous Jean-Michel?
Quand je vous vois, ça va très bien.
Bah moi aussi. Bah, c'est réciproque, vous voyez. Voilà. Les choses réciproques dans la vie.
Voilà. Absolument.
J'habite ici, hein. C'est pas moi qui le dis, c'est le titre de votre nouvelle pièce de théâtre publiée chez Actes Sud Papier et qui partira en tournée en France en 2022. C'est un concentré absurde, un regard provocateur sur la société. Vous y allez fort, hein, Jean-Michel, sur le racisme notamment. Ça vous fait rire, le racisme?
Non, ce qui me fait rire, c'est la bêtise des gens qui sont racistes. C'est-à-dire qu'il y a une telle stupidité qu'à un moment, on est obligé de rire, oui, oui.
Il y a le plombier de l'immeuble, par exemple, affreux raciste, qui s'étonne qu'un Gabonais s'appelle Henri, sauf qu'il n'est pas du Gabon, mais du Cameroun. Ce à quoi Michel répondra, ah d'accord, je vois, toi tu es du genre précis, Gabon c'est Gabon, Cameroun c'est Cameroun.
Voilà.
C'est horrible.
Oui, c'est-à-dire qu'il dit que Henri, c'est quand même, bah, c'est comme Henri IV, ça appartient à la France.
En fait. Oui, c'est ça, oui. Il y a des prénoms qui sont dédiés à certaines nationalités.
Ouais. Et vous savez, en vérité, toute cette pièce est venue, je sais pas qui disait, c'était Zidrou, je crois qu'il était conçu les personnages. Moi, ça a plu comme un nuage, comme ça, et c'est tous ces énervements que j'avais en moi qui sont sortis et qui ont permis d'être en révolte contre les talibans du bon goût, le marécage de la bien-pensance, ou tous ces gens qui savent. Et c'est vrai que j'ai suivi cette petite colère.
Alors, selon l'un de vos personnages, c'est grâce aux vrais racistes qu'on n'a plus le droit de faire ou de dire certaines choses.
Oui.
Comment vous l'expliquez ça, Jean-Michel?
Bah, c'est ce qu'il dit. Il dit, si on n'avait pas gueulé contre les nègres, dit-il, contre tout ça, ben, il y aurait pas eu, touche pas à mon pote, il y aurait pas personne, ce serait réveillé, ça aurait continué un petit roupillon comme ça, tout le monde serait content, et puis on aurait, ça serait passé sous le tapis.
Alors, il y a le monsieur Larcher aussi, qui habite cet immeuble, lui, et qui est anti-écolo.
Oui.
Selon lui, l'écologie n'a rien à faire dans les villes.
Oui, c'est-à-dire qu'il dit, moi j'ai quitté la ville pour habiter à Paris, et j'ai pas envie d'être réveillé, parce qu'on doit mettre des arbres dans sa rue, il dit, j'ai pas envie d'être réveillé tous les matins par des oiseaux, non ça sûrement pas, etc.
Ouais, il craint que l'on plante des arbres face à l'immeuble, parce que les arbres, ça attire des oiseaux, et les oiseaux le matin, eh ben, ça fait du bruit.
Voilà, c'est ça. C'est vrai, c'est un anti-écolo guerrier, guerrier, parce qu'il dit beaucoup de choses après, beaucoup plus violentes.
Il va finir par chasser la dinde.
Oui, la dinde.
Au fusil à plomb.
Oui.
Parce qu'il dit que les dindes font des repérages.
Oui. C'est la dinde, comme vous l'aurez remarqué, la dinde, en vérité, c'est un personnage dans la pièce qui est critique dramatique.
Oui, alors dites pas tout quand même, Jean-Michel.
Oui.
Mais parce que sinon on dévoile la fin de cette histoire-là. Mais oui, alors il y a une critique
dramatique, qui est bouleversée uniquement par les Alexandrins.
Oui, oui.
Et l'Alexandrin la fait s'envoler, elle lui donne des ailes, et donc un jour, elle s'envole et on pense que c'est une dinde, ce qu'elle est en vérité.
Oui, il y a des allusions comme ça, sorte de métaphore. On va voir du côté de nos libraires, s'ils ont apprécié votre livre, Jean-Michel Ribes, livre pièce de théâtre, chez Actes Sud Papier, qui publie des pièces de théâtre magnifiques à chaque fois. Et là, encore une fois, c'est réussi. On va aller du côté du Canada avec Josiane Etourneau. Josiane.
Eh bien, quelle pièce, Jean-Michel Ribes. Je dois vous avouer qu'en humour, les moments que je préfère, ce sont ceux où l'art de l'absurde est si intense et va si loin qu'il nous renvoie avec un plaisir un peu sadique, mais bienfaisant, je dois dire, à un reflet profondément juste de notre société. C'est jouissif, même si vous traversez quelquefois des limites qui mériteraient d'être discutées. Oui. Mais en gros, on passe ce niveau où quasiment tout devient hilarant. Je dis bien quasiment tout.
Pourquoi quasiment tout?
Ben, y a des petites choses parfois dans la pièce qui font un peu grincer des dents, qui portent à la réflexion. On se demande pourquoi on réagit comme ça, pourquoi ça nous fait réagir comme ça.
Ouais.
Puis en gros, ben voilà, c'est pas négatif, c'est juste, ouais, voilà où on en est rendu. Est-ce qu'on peut aborder la chose comme ça?
Mm-hmm.
Voilà,
c'est ça. Bien. Merci Josiane. On va aller du côté de la Suisse avec Claire Renaud.
Oui, alors moi, le cru et l'osé m'ont toujours fait rire, et puis le côté provoque aussi. Donc, je me suis vraiment amusée en lisant votre pièce, complètement déjantée. Et ce que je regrette, c'est de pas l'avoir vu jouer sur scène. Et comme l'a dit Emmanuel au lancement, vous allez à l'encontre du politiquement correct, et ça, je peux que vous remercier. Et puis, Moi, j'ai cette sensation, après avoir lu votre pièce, c'est qu'il est toujours agréable de se sentir dans une cour de récré à se moquer de tout le monde avec audace et insolence.
Bien,
merci. Oui.
C'est bien ça.
Oui, hein, c'est bien la cour de récréation. C'est la cour de recréation.
Mais c'est ça, en fait.
Oui, c'est ça. Et puis, seuls les enfants ont vraiment du génie et de l'innocence pour dire ce qui est.
Bien, la Belgique, on va voir si elle est d'accord avec ses collègues. Nathalie Clairin.
Ah, plus que d'accord. Donc, pour moi, c'est vraiment un tour de main de maître, sauter comme ça si légèrement, de sarcasme en sarcasme. Alors, pendant 67 pages, au rythme qui ne faiblit jamais, en plus, moi, je me suis bidonnée et je désamorçais des bombes à chaque page, mais c'était vraiment bon. Entre jeu de mots, double sens et toujours cette naïveté intelligente, c'était vraiment que du bonheur. Donc, comme tout bonheur, ça doit se partager. Il faut lire J'habite ici abondamment.
Ouais. Exactement. Il faut le conseiller à tout le monde. C'est très réussi, Jean-Michel Ribes, je m'associe au libraire. Alors, au troisième étage, il y a une famille qui s'inquiète du résultat des élections municipales. Leur maire actuel de droite risque sa place face à la gauche, et ça, ça les rend malades.
Oui, c'est-à-dire que ça les rend malades. Il y a même le père qui a de l'aérophagie, parce que à chaque fois que la gauche apparaît, et ça le fait bidonner, il gonfle, etc. Et là, on dit au fils...
Il a des flatulences,
oui. Oui, ça. Arrête, tu vas faire flatuler ton père encore, ne parle pas de politique. Que la gauche risque d'arriver. Oui, enfin, c'est des... Vous savez, c'est des... Comme le disait cet libraire, en effet, c'est des trucs d'enfants qu'on a envie de dire aux adultes, quoi, ça va, vous prenez pas au sérieux, arrêtez ce truc, tout le temps, des gens qui savent, des gens qui disent, des gens... Voilà, vous nous avez éduqués, mais vous ne nous avez pas élevés.
Le fils arrive, d'ailleurs. Lui, c'est un gauchiste avéré, étudiant en médecine et homosexuel. Il ne comprend pas le désarroi de ses parents et il dira « Vous avez pris de la drogue ou quoi ?» Il a mis un supermarché à la place du conservatoire de musique et a remplacé la fête du Muguet par une course de tracteur. C'est un dingue. Vous réalisez que ce type est totalement irresponsable ? Et le père répond « Pour une fois que ce n'est pas nous. »
Oui.
Tout est dit. C'est exactement ça.
Ouais. Oui.
C'est le vrai service public, ce maire, parce qu'il nettoie la conscience de ses administrés, dites-vous.
Oui, c'est ça, il a toute la culpabilité qu'ils peuvent avoir en ne faisant pas leur tri, en étant dégoûtant, je sais pas quoi, en n'étant pas civique. Il s'en charge, c'est pour lui, donc comme ça, il enlève toute culpabilité. Et c'est ça, le service public, c'est de rendre les citoyens d'une ville très heureux, quoi qu'ils fassent.
Et puis dans la rue, il y a Francine et Sophie qui s'étonnent de voir que tous les métiers sont au masculin. Le boulanger, le marchand de journaux, le policier, le facteur. Et Sophie dira « Et attends, ce matin, j'ai réalisé que mon père, mon propre père, était un homme. »
Oui, et là c'est beaucoup.
Vous pensez que les féministes vont trop loin, Jean-Michel Ribes? Ça vous agace tout ça?
Ce qui est compliqué, c'est quand tout d'un coup ça se rigidifie et que ça devient de l'ordre moral. C'est-à-dire que ça devient quelque chose qui emprisonne totalement tout le monde. On est au garde à vous, faut plus faire rien, faut plus mettre la main sur une amie, sur l'épaule d'une amie. Là, ça devient totalement contre-productif. Et moi, j'ai peur qu'à force de ça, c'est important que la parole soit libérée, ô combien important, mais il y a une rigidité. Justement, il y a cette espèce de capacité à tuer l'humour. Vous savez, il y a une chose qui est assez importante. Il y avait notre ami Staline qui était terrorisé
notre
par l'humour.
Notre ami Staline.
Oui, c'est un des virus qu'on n'a plus, mais que bon. Et il disait une chose formidable, il disait « Un pays qui est vraiment heureux n'a pas besoin d'humour. » Ce qui montre bien à quel point il était terrorisé. Et tous les gens qui se rigidifient dans une attitude, on ne va pas prendre un mot trop fort, mais un peu pré-fascisante, c'est ça, c'est l'humour qui leur fait peur.
Ouais.
Et ça, le rire de résistance, ça a été depuis toujours quelque chose qui a permis, je dirais presque, aux civilisations de respirer contre les dictatures.
Mais c'est pour ça que vous poussez loin la provocation, avec Pauline et Jean-Claude, par exemple, Pauline qui est infirmière.
Oui.
Vous vous rappelez de ce passage?
Oui, je me souviens assez bien que j'ai écrit. Oui.
C'est pas toujours le cas, hein, dans ce passage. Et Jean-Claude qui lui balance en fait que maintenant elle fait la star depuis qu'on l'a applaudi à 20h. Et que ça suffit, quoi.
Si vous voulez, tous ces gens qui ont applaudi les soignants héroïques, etc., aujourd'hui, ils ne les applaudissent plus. Il y avait un côté bonne conscience. Bon, on a fait ça, on a applaudi dans la journée, ça suffit. Maintenant, on a fait ce qu'il fallait pour avoir bonne conscience. Il y a tout ça qui est un peu
curieux. Mais vous pensez que les infirmiers, les infirmières et le monde médical regrettent ça aujourd'hui? Parce que c'est un peu ce qu'a fait passer Pauline. Parce qu'elle dit, moi j'intube toute la journée et puis on me dit plus rien.
Oui, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a eu un élan tout à fait formidable d'adhésion et puis aujourd'hui on passe à autre chose. Tout ça, c'est pas, voilà, c'est comme tout n'a plus d'importance, tout se vieillit, c'est plus grave en vérité.
C'est normal ou pas?
Non, c'est pas normal. Mais c'est pas normal, mais vous savez, il y a quelques années, je sais pas si vous vous souvenez, pour avoir bonne conscience, fallait sauver des migrants, fallait aller voir, etc. Aujourd'hui, pour avoir bonne conscience, faut sauver la planète, faut pas tuer les hannetons, faut uniquement regarder si les plantes poussent bien, etc. Ça change, la bonne conscience. Et là, en deux confinements, la bonne conscience a changé. Ça semble naturel que tous ces gens se dévouent pour nous, et après tout, on n'a plus besoin de les saluer comme on les saluait avant.
Il y a les véganes aussi, Jean-Michel Ribes, dans votre pièce, qui se rendent malades à force de ne rien manger de consistant. Les Level ont même un coach, la famille Level, qui est au troisième ou quatrième étage de cet immeuble, donc. Et le coach qui dira cette phrase sublime, respectons l'anus, c'est notre bouche arrière.
Oui.
Je ne sais pas où vous trouvez des phrases comme ça, vous.
Comment ?
Je ne sais pas où vous trouvez des phrases comme ça.
Bah, en tout cas, c'est minimum par rapport à ce qu'on entend. Parce que ça, l'espèce de secte de faut manger, de faut mettre comme ça, du chou-fleur sous l'oreiller pour bien dormir, faut vous masser uniquement avec des cacahuètes, ne mangez absolument plus aucun animal de viande. Oh, ça est totalement grotesque. Non, mais je vous assure, on est dans une espèce de comédie un jour et tout ça va s'écrouler dans le ridicule, quoi.
Vous en avez après les critiques de théâtre ou pas, vous ? Parce qu'il y a cette critique de théâtre pour un journal que vous faites passer pour une folle. On sent que vous avez eu affaire avec les critiques à votre théâtre du Rond-Point, non ?
Tout homme à peu près normalement constitué qui fait du théâtre, on a affaire avec les critiques, oui.
Et alors, vous en pensez quoi des critiques ?
J'en pense que je trouve formidable les critiques qui m'adorent et les autres, je les trouve un peu un manque de goût extraordinaire. Non, mais alors là, c'est quand même assez drôle parce que cette pièce qui a bousculé toutes les règles de théâtre,
théâtre
mal élevé, a rendu des critiques hystériques des deux côtés. C'est-à-dire en bien, c'était le génie qui avait osé, et en détestation. Et c'est assez drôle parce que, vous savez, c'est comme quand les gosses font hurlent la nuit dans les quartiers, etc. Ça fait sortir les fascistes qui leur tirent dessus. Mais s'ils n'hurlent pas, bon, alors moi j'ai un peu hurlé, et on a vu quand même des gens qui tout d'un coup étaient ce qu'ils étaient, c'est-à-dire des gens extrêmement carrés, sans fantaisie.
Bon, on n'a pas de critique ici, on a des libraires, ça s'est bien passé, donc tout va bien. Donc vous adorez du coup l'émission et les libraires de la librairie.
Moi j'adore toujours cette émission.
Ah, c'est gentil.
Non mais vraiment, sincèrement, je trouve que je n'y viens pas assez souvent, mais je trouve quand même qu'elle est très très bien dans l'ensemble.
Bon, vous êtes venus souvent et on vous réinvitera, ne vous inquiétez pas.
En tout cas, merci à tous mes amis. Maintenant, c'est comme disait Superfiel, mes amis inconnus, critiques qui ont été trop indulgents
libraires,
avec moi.
Libraires.
Oui, libraires, pardon, qui ont été très... Bah oui, mais enfin, ils ont dit des choses... Les critiques devraient s'inspirer des libraires.
Bon, merci Jean-Michel Ribes. J'habite ici est paru aux éditions Actes Sud Papier. Lisez cette pièce de théâtre, offrez-la aussi.
Oui. Et alors, je dois dire que je suis très content parce qu'on dit qu'on ne lit pas le théâtre.
Oui.
Et on le lit. Cette pièce, curieusement,
mais
a été immédiatement réimprimée.
Il faut d'ailleurs lire du théâtre.
Il faut
aller au théâtre, mais si vous ne pouvez pas aller au théâtre, lisez au moins des pièces de théâtre. On a appris ça à l'école. C'est génial de lire une pièce de théâtre. On a ses propres personnages et parfois même on est déçu quand on a lu la pièce et qu'on va au théâtre parce que c'est pas les mêmes personnages qui interprètent de la même façon que nous.
Exactement. Et puis on peut la réinventer complètement et la mettre en scène à son goût.
Merci Jean-Michel, à très bientôt.
La librairie francophone, Emmanuel Guérad.
La chronique des libraires avec un coup de cœur en France, Thomas Auxerre, et un gros livre.
Et oui, un coup de cœur et un gros coup de cœur pour un gros livre. Alors c'est du côté des beaux livres et des livres de cuisine pour changer un petit peu. Il s'agit du dernier livre de Stéphane Reynaud aux éditions du Chêne. Ça s'appelle Bistrotier. Bon bah donc des recettes de bistrot, hein, vous aurez compris. Sur la couverture élégante figure ce sous-titre que j'aime beaucoup. Le livre des joues rouges et des assiettes à saucer. Alors déjà, tout est dit. Il y a 80 pages à boire, 400 pages à manger. Il y en a vraiment pour tous les goûts. En plus, il y a même des conseils pour des petits vins pour accompagner. Les photos sont très belles, la maquette est super. Je trouve. Donc, bah, franchement, gros coup de cœur, Emmanuel, à mettre sous le sapin.
Bistrotier de Stéphane Reynaud aux éditions du Chêne. Merci Thomas. Un coup de gueule en Suisse, Claire Renaud, dans le rayon des livres de sport.
Oui, Emmanuel, je ris encore. Mais normalement, vous savez, notre héros national, Federer, ne devrait plus jouer.
Oui.
Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on sort des livres. Moi, je pensais que tout avait été dit, mais non. Alors, il y a « Agir et penser comme Federer », « Roger Federer en fabuleux destin ». Alors, ce livre, il est pour les enfants, si jamais. Il y a des bandes dessinées. Et alors, le clou, c'est maintenant « Federer, le plus grand de tous les temps ». Ouais, non, non, non. Alors, on l'ignorait. Hein. Alors, après De Gaulle, Napoléon et Jésus, nous nous retrouvons submergés des publications autour de notre Dieu national.
De Gaulle, Napoléon et Jésus, carrément, vous y allez fort.
Oui.
Bon, il y a Nadal aussi, excellent joueur de tennis.
Ah, je pense que ça marcherait moins.
Oui, ça marcherait
en
moins.
Tout cas en Suisse.
Ça, c'est sûr. Bon, merci pour ce coup de gueule. On va partir au Québec tout à l'heure avec le docteur François Marquis et puis un livre de poche avec Mohamed Bougarsar. Avant cela, voici Sega Bodega avec Charlotte Gainsbourg dans la librairie francophone. Attention, titre étrange, mais très efficace. Je vous l'avais dit, hein. Étrange mais efficace. Le nouveau Charlotte Gainsbourg, figurez-vous, avec Naturopathe.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Et je vous l'avais promis lorsque nous le recevions pour le prix Goncourt, Mohamed Bougarsar était venu dans la librairie francophone en 2018 pour son roman De Purs Hommes. Nous l'avions découvert à ce moment-là. Voici un extrait de cet entretien sur ce livre à l'occasion de sa parution en poche. Ce roman est une fresque qui analyse les comportements homophobes au Sénégal. Tout commence par une vidéo sur Internet.
Oui, et c'est une vidéo que j'ai eu le malheur de voir à une certaine époque. Parce que
ce qui n'est a pas existé une... alors
qui a existé, qui a circulé dans les téléphones et en 2009. Une vidéo où on voyait des gens, une foule, aller dans un cimetière et déterrer un homme. Et on entend dans les commentaires de la vidéo que les gens font que cet homme était accusé d'être un homosexuel et que comme tel, il ne méritait pas de reposer dans un cimetière musulman. Et donc, c'est de là qu'est parti, d'une certaine manière, le roman. Donc, il y a très longtemps, avant même que je songe à écrire quoi que ce soit, c'est une image qui était déjà là.
Alors, il y a votre personnage, Ndéné, qui est à la fois choqué et en même temps indifférent, car c'est ce que l'on appelle au Sénégal, alors j'ai très mal prononcé, je vous laisse le faire peut-être,
un gordigen.
Voilà.
C'est le nom générique par lequel on désigne les homosexuels, mais aussi toutes les autres formes de sexualité non hétérosexuelle, tout simplement. Mais c'est un mot qui littéralement signifie homme-femme. Donc au départ, si on veut être très précis, ça désigne surtout le phénomène du travestissement. Mmh. Mais il a fini par désigner l'homosexualité et les homosexuels. Et par devenir un terme assez péjoratif.
Cette vidéo va vraiment faire réagir toute la société sénégalaise, y compris la mosquée, où son père remplace l'imam, parce que l'imam est malade. Et son père va condamner non pas la vidéo, mais les homosexuels dont la place est en prison. Ce sont, je cite, « des pêcheurs, des criminels dont la seule présence au sein de la société menaçait la cohésion et la morale, des êtres dont l'existence même constituait un crime contre l'humanité ».
Eh bien, disons qu'au Sénégal, l'homosexualité est encore pénalisée. Voilà, il ne fait que, d'une certaine manière, être la voix de la loi. Mais ce qui est assez terrible, c'est que, condamnant ainsi les homosexuels, il n'est pas le plus dur, le plus radical.
Oui.
Il a quand même la, je ne sais pas si c'est le cœur ou la bienveillance, de dire que tout ce qu'on peut faire pour ces homosexuels,
c'est de prier pour eux.
C'est de prier pour eux parce qu'ils sont, soi-disant, malades. Donc il faut prier pour eux. Mais le fait même de formuler cette prière-là fait de lui un suspect, parce qu'on trouve qu'il n'est pas assez dur.
Pas assez radical.
Et c'est son rival pour l'imama qui finira par l'emporter, parce que lui est tout à fait absolument radical sur cette question.
Alors il va parler de ça avec son fils, et il lui dira à son fils, chaque pays a des valeurs sur lesquelles il s'est construit. Nos valeurs ne sont pas celles-là, tout simplement. On ne peut pas les accepter comme quelque chose de banal. Mohamed, faut-il se poser la question des valeurs morales et du respect des traditions ? Doit-on essayer de comprendre, je posais une question un peu polémique, mais doit-on essayer de comprendre les homophobes ?
Je pense qu'il faut essayer de les comprendre. En tout cas, comme romancier, j'essaie de les comprendre parce que je crois qu'il y a quelque chose de plus complexe dans cette homophobie-là qu'une simple haine. Je pense que le lit de l'homophobie peut être également beaucoup d'ignorance, peut être un certain aveuglement, peut être une certaine peur aussi, surtout. Et je crois que qu'en faisant un travail de fourmi très précis, en interrogeant les gens, on arrive à remonter aux sources de cette homophobie-là. Donc moi, j'essaie de la comprendre, je ne la juge pas. Comme romancier, j'estime que ce n'est pas mon travail. J'essaie de montrer toutes les possibilités qu'il peut y avoir à une homophobie. Je ne l'excuse pas, si c'est mon avis personnel que vous demandez. Il y a, oui, je crois, des progrès à faire sur cette question, en tout cas dans un certain nombre de pays, dont le Sénégal.
Et puis parfois, sans qu'on s'y attende, de façon improbable, on peut changer notre regard sur l'autre en vivant soi-même une attirance différente. Vous le démontrez, on ne va pas tout raconter, mais ça peut arriver.
De toute façon, tout le roman,
à tous les hommes et à toutes les femmes.
C'est l'évolution, disons, c'est la réflexion de cet homme-là, c'est l'odyssée de Ndéné intérieur.
Mon bel amour, mon cher amour, ma déchirure, je te porte dans moi, pour mon oiseau blessé, et cela sans savoir. Après moi, ces mots que j'ai tressés et qui pour tes grands yeux ont aussitôt mouru. Il n'y a pas d'amour.
Et le roman de Mohamed Bougarsar, De purs hommes, est paru en poche, donc au livre de poche. On reste dans ce rayon des livres de poche avec un coup de cœur en Belgique, Nathalie Clairin.
Oui, Emmanuel. Avec moi, un coup de cœur tout à fait net pour le livre de Julia Deck, Propriété privée. Alors, c'est un petit livre qui est paru aux éditions de Minuit dans la collection Double. Alors, Eva et Charles quittent Paris et sa pollution pour s'installer dans un pavillon neuf, un écoquartier très prometteur, avec des voisins apparemment fort sympathiques. Mais les voisins leur veulent-ils vraiment du bien ? Alors, on est dans le sourire, on est dans le suspense croissant aussi d'une tension qui monte au sein des relations interpersonnelles. Les voisins, enfer ou paradis, eh bien, je vous laisse découvrir ça dans ce roman très bien écrit, d'une Julia Deck au cynisme tout approprié et de personnages si probables qu'on entre dans le livre sans plus le lâcher.
Ça donne envie, en tout cas. Julia Deck, propriété privée aux éditions de Minuit, dans la collection poche des éditions de Minuit. Merci Nathalie. Un coup de gueule au Canada, Josiane Letourneau.
Vous le savez, Emmanuel, je suis quelqu'un de positif qui apprécie le verre à moitié plein et un rayon de soleil. Mais si on a fait des progrès quant à notre perception des autres francophones, je pense qu'il y a encore du chemin à faire, surtout quand je me fais demander par des touristes en librairie si je lis des traductions québécoises parce que je dois pas pouvoir lire les traductions françaises ou si je vends des dictionnaires québécois-anglais parce qu'au Québec, ben, c'est pas vraiment du français. Comment dire, Emmanuel, j'ai des crises existentielles de 3 minutes où je me demande qui suis-je? Où vais-je? En fait, quelle langue je parle? Bref, on a fait du chemin,
ouais.
Mais...
Et puis, je sais qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent aussi voir les libraires de la librairie francophone. Donc maintenant, vous savez. Oui, Jean-Michel?
Non, parce qu'on parlait du verre à moitié plein, du verre à moitié vide. Moi, ça ne me dérange pas, je bois les deux.
C'est bon.
Bon, parfait.
Moi aussi.
Allez, on reste au Canada, justement. C'est le mois de décembre, un mois de décembre très canadien dans la librairie francophone. On vous propose depuis le Salon du Livre de Montréal plusieurs moments au Québec étalés jusqu'à Noël. Voici un médecin qui s'est fait connaître lors de la pandémie et qui nous a reçus en pleine campagne québécoise. Nous sommes à 60 km de Montréal, environ à Mirabel, au milieu de la neige, puisqu'il a pas mal neigé là cette nuit. Bonjour François Marquis.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ici à Mirabel. Vous êtes médecin, chef du service des soins intensifs de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Vous êtes très présent dans les médias canadiens depuis le début de la pandémie. Vous avez publié « Mes carnets de pandémie » aux éditions du journal. Vous racontez tout ce que vous avez vécu et vu. Le pire comme le meilleur, dites-vous, c'était quoi le meilleur?
En fait, le travail d'équipe, c'était incroyable de voir comment les gens se sont serrés les coudes, se sont oubliés. Des fois, c'est un peu négatif, mais ont vraiment travaillé en équipe pour arriver à exceller, à offrir les soins que la population avait besoin et aussi à être en mesure de considérer des idées nouvelles pour se sortir un peu du pétrin.
Alors, votre livre raconte en fait tout ce que la France et d'autres pays ont vécu. On croit, quand on est français, belge, suisse ou autre, que les problèmes des masques, par exemple, ont été endémiques à notre pays, que notre système de santé est défaillant, car privé de moyens suffisants, c'est un scandale de la politique de notre pays, mais en fait, c'est partout pareil, parce que ce que vous racontez, c'est ce que les autres ont vécu aussi.
Oui, effectivement, et en fait, pour nous, ça a été un gros avertissement, parce que on a vu l'Europe au complet, aux prises avec le virus avant nous. Et pour nous, ça a été vraiment le signal qu'on n'allait pas y échapper en Amérique, que c'était clair qu'au Canada, on allait se faire ramasser à notre tour. Et ça a été les mêmes défis. Mais aussi que chaque système de santé a eu ses forces. Il y a des choses qui ont très bien fonctionné au Québec et au Canada, comme il y a probablement des choses qui ont très bien fonctionné en France et ailleurs dans la francophonie. Et je me dis, c'est une belle occasion pour les politiques de s'asseoir et de dire, écoutez, moi j'ai eu ça qui a été une faiblesse, voici une force. Quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses? Et peut-être que les systèmes de santé pourront s'enrichir les uns les autres.
Alors, on a un tracteur qui démarre, parce qu'on est dans un endroit très particulier. Vous allez tous comprendre pourquoi. On est devant une distillerie.
Oui, effectivement.
Avec du gin et du whisky à l'intérieur. On va en parler, on va entrer, docteur Marquis, parce qu'il fait quand même un peu froid là. Puis on est sur la glace là, et j'ai les pieds gelés. Voilà, on entre dans un très bel endroit qui est traversé de part et d'autre par des champs. Ah, vous avez la clé, François.
Oui, j'ai la clé. Alors, bienvenue à Côte des Saints.
Merci. Voilà, Côte des Saints. Bon, on va poursuivre cet entretien sur le livre, docteur, et puis après, vous allez nous expliquer pourquoi on est là. Alors, les fausses informations aussi, il en a été question. Des informations avec les théoriciens du complot, vous en avez subi les conséquences, comme ailleurs, là encore.
Effectivement, et c'est assez particulier de le voir sur une si grande échelle. C'est certain qu'un sujet comme une pandémie qui nous affecte tellement au quotidien, ça soulève les passions. On s'attendait tous à avoir des justifications à donner, des explications à donner, et on savait tous qu'il y aurait des gens qui allaient être contre certaines choses qui allaient être dites ou faites, mais de voir une levée de boucliers aussi organisée, aussi forte, alors que jusqu'à maintenant, la vaccination, par exemple, a été plutôt bien accueillie partout dans le monde, les gens étaient heureux de se faire vacciner, et là, soudainement, pour nous, on est passé d'un moment où tout le monde réclamait un vaccin haut et fort, et avec toute l'énergie du désespoir, hein, on refuse le vaccin.
C'est ça.
Et ça, pour nous, ça nous a assez pris de court. Ouais, ouais. Ça, on s'attendait pas à ça, en voulant dire, ben, vous l'avez le vaccin, c'est quoi le problème? Mais ça demandait des énergies très importantes, effectivement, car avec la montée des médias sociaux, l'instantanéité des opinions, il y a une certaine perte de l'expertise. Chacun fait ses recherches, chacun fait son opinion, et retrouver le véritable ou les véritables experts ou les points de vue qui sont étoffés versus les points de vue qui sont vraiment de l'opinion. Comme je dis souvent, tout le monde peut avoir son opinion, mais ça change rien au fait.
Alors, vous parlez souvent des médias car vous avez été beaucoup sollicité. On a reproché à certains médecins, un peu partout dans le monde d'ailleurs, d'avoir été très très présents sur les plateaux de télé et de radio. Vous, vous faites partie de cela, docteur Marquis. Vous êtes senti une responsabilité pour intervenir à ce point-là?
En fait, moi, ce qui était important pour moi, c'était l'aspect vulgarisation. C'est des concepts extrêmement difficiles. Les pandémies, c'est pas des choses simples. Je me faisais poser beaucoup, beaucoup de questions. Par même des gens qui travaillent dans le système de santé, je me faisais déjà interpeller beaucoup. Et là, je me suis dit, il y a un besoin de cette information-là. Et s'il y a personne pour essayer de vulgariser les faits, on laisse le champ libre à ceux qui, eux, vulgarisent l'opinion. Et je trouvais que c'était important, comme médecin, de pouvoir offrir au maximum l'information valide basée sur la science.
Vous dites aussi que dans les premières semaines de la crise, les gens ont été, je cite, « incroyablement généreux » avec le personnel médical. Mais tout à coup, vous écrivez « les arcs-en-ciel sont gris ».
Oui, c'est que pour nous, ce qui est arrivé, c'est comme à plusieurs endroits, l'arc-en-ciel est devenu un peu le symbole qu'après la pluie, il allait avoir le beau temps, puis et on avait le slogan « ça va bien aller », et les gens mettaient, placardaient partout des arcs-en-ciel. On se promenait dans les rues de Montréal, toutes les maisons avaient des arcs-en-ciel, parfois dessinés par des enfants, parfois faits par des adultes, des fois c'était des photos, et les gens nous encourageaient un peu partout en disant « avec l'arc-en-ciel ». Mais les choses sont les choses. Les gens se sont tannés. C'est devenu de plus en plus difficile au quotidien avec les mesures sanitaires. Et les gens ont eu une certaine frustration. Et de là, l'arc-en-ciel, quand je dis qu'il est devenu gris, c'est que ces encouragements-là, à un moment donné, sont devenus doutes, sont devenus reproches. Pas de tous, mais tout d'un coup, ce n'était pas uniformément rose. Et ça, les gens l'ont pris assez difficilement dans le système de santé parce qu'eux aussi étaient éprouvés, aussi ça faisait longtemps qu'ils travaillaient. Et ça a été, pour certains, un moment assez difficile à passer, là, où il y avait vraiment l'impression de ne plus être soutenu par la population.
On va se mettre au comptoir, docteur oui. Marquis, parce qu'il y a un joli comptoir en bois avec des bouteilles magnifiques de gin et de whisky, je rappelle. Je vais enlever mon écharpe parce qu'il fait très chaud. Hein, là.
Oui, ça sent... C'est une distillerie, ça fonctionne. Hein. On fait bouillir les crus. Ça fait toujours très chaud dans une distillerie.
C'est ça, oui. Voilà, donc je vais enlever un petit peu une couche, là. Hop. Et vous parlez donc, à un moment aussi dans ce livre, docteur, d'une année 2020 annulée. C'est un peu comme si elle n'avait pas existé cette année. On a tous fêté notre anniversaire en 2020, forcément, souvent confinés, parfois seuls. C'est comme si on avait sauté une année. On a tous un an de moins, du coup.
Oui, mais en fait, on pourrait le voir comme ça.
C'est ça.
Je suis convaincu que les jeunes qui voulaient fêter enfin leur 18e anniversaire ne seraient pas d'accord avec ça. Mais pour la plupart des gens, effectivement, on se pose tous la question, mais qu'est-ce que j'ai fait à mon anniversaire? Et personne ne s'en rappelle facilement. Alors, qu'est-ce que j'ai fait cette année? Ben, j'ai été confiné, c'est ce qui est arrivé. Il ne s'est rien passé d'autre.
C'est ça. Bon, allez, pour vous détendre, docteur, et c'est pour ça qu'on est là, vous aimez bien boire un whisky ou un gin? Alors, tout le monde est en train de se dire, alors ils sont allés dans une distillerie pour illustrer le gin et le whisky. Mais ça va plus loin, parce que vous êtes copropriétaire d'une distillerie, celle-ci, la distillerie Côte des Saints, avec tout cet endroit qui est autour de nous. Comment ça se fait, ça, que c'est une passion pour le gin et le whisky?
Oui, tout à fait. C'est que, bon, il faut comprendre hein, que mon épouse et moi, on a une longue histoire d'amour, et aussi avec le whisky, on était quand même fan de notre voyage de noces en Écosse. On a rencontré des gens qui sont les autres partenaires qui avaient commencé à démarrer ce projet-là. On s'est inclus là-dedans. On est tous des passionnés de whisky et de gin. Et on s'est dit, et est-ce qu'on pourrait pas faire un excellent whisky pour le Québec et de vouloir offrir au Québec ou au reste du monde un produit de très, très haute qualité, fait selon la méthode écossaise, mais avec des grains du Québec et au Québec.
Très bien. Alors, nous allons découvrir cette distillerie. Vous nous direz aussi si ces alcools peuvent avoir des bienfaits sur notre santé. Ce sera dans notre émission de Noël, émission spéciale Noël à Montréal, diffusée le week-end du 25 décembre. Voilà, donc merci beaucoup François Marquis. Votre livre « Mes carnets de pandémie », livre réalisé avec Marie Lambert-Chan, est paru aux éditions du journal. Et on se retrouve très bientôt pour parler whisky et gin.
Parfait, merci beaucoup.
Merci.
Et avant de conclure, on écoute le son de l'outre-mer avec un extrait de l'album posthume de Jacob Desvarieux qui sort ce week-end. C'était un extrait de l'album posthume de Jacob Desvarieux, sorti ce week-end avec Oulé. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation, David Leprince avec Benjamin Troncin. À la rédaction, Jean-Philippe Véret et Christophe Magère de France Inter avec les équipes de la RTS, de la RTBF et de Radio-Canada. Thierry Dupin à la prog musicale. La semaine prochaine, nous parlerons des cuisines du monde avec Jean-François Mallet, de Goldorak avec Xavier Dorizon et nous recevrons le grand écrivain algérien Yahya Belaskri. On a une grande pensée émue aussi pour Maryse Volinsky, amie de notre émission, qui vient de partir rejoindre Georges. Nous lui rendrons hommage également. Bon week-end, bonne semaine à vous. Et n'oubliez pas la rediffusion à 1h du matin avec le bonus créole de Jean-Michel Ribes. À suivre Barbatruc qui vous donne des idées cadeaux pour Noël.